おかしいおかしい
Bonsoir et merci de vous joindre à nous dans ce rendez-vous hebdomadaire de la presse de ce vendredi 8 juillet 2008. Ouverture ce vendredi africain en Chine de la 29e édition des Jeux Olympiques. La RDC participe à cette compétition avec 5 athlètes. Promulgation de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature le mardi dernier par le président de la République. Procès Botetti, la journée d'aujourd'hui est consacrée à la deuxième descente sur les lieux de l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce sont là les sujets que nous abordons dans la tribune de la presse avec nos invités. Il s'agit de Mike Mukebai, journaliste indépendant œuvrant à Kinshasa, John Ngobois, journaliste de la chaîne de télévision Antenne A émettant à Kinshasa, et Tade Balundi Yawe, lui également journaliste indépendant. Il fait cependant partie de l'agence de presse Sistia de Grand Lac basée à Bukavu dans le sud Kivu. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de nous pencher dans le vif de notre émission, d'abord suivons comment la presse chinoise a abordé les sujets retenus tout au long de cette semaine avec notre confrère Guy Maté.
Les manchettes des quotidiens parues cette semaine à Kinshasa ont fait état de la participation de la RDC aux Jeux Olympiques de Pékin en Chine, de la promulgation de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que du procès Botetti. Alors qu'une certaine opinion ne cache pas son pessimisme sur les chances des athlètes de la RDC à cette 29e édition des Jeux Olympiques, le président du Comité Olympique Congolais, Jean Béa, affirme dans l'Observateur de ce vendredi 8 août 2008 que la RDC pourrait créer la surprise à Beijing. Et l'avenir, titre dans son édition de vendredi 8 août 2008, le président Joseph Kabila assiste ce jour à la cérémonie d'ouverture de la 29e édition des Jeux Olympiques. Quant à la délégation congolaise, elle est composée d'une trentaine de personnes, dont 5 athlètes qui défendront les couleurs nationales, conclut ce quotidien. Masque de Botetti, le mystère persiste, titre le potentiel dans son édition du mercredi 6 août 2008. Ce quotidien affirme que des faits importants sont à retenir. D'abord, les excuses présentées par le prévenu Mwewa à l'endroit du gouverneur Kimbuta alors qu'il l'avait cité comme commanditaire de cet assassinat, et ensuite, l'attitude des caddies niant tout lien avec le reste de la bande qui pourtant le reconnaît. Par contre, l'avenir dans son édition du jeudi 7 août 2008 affirme que, par rapport au procès Botetti, la vérité se dessine lentement mais sûrement. Le grand effet mercredi 6 août 2008 a commencé par des questions adressées à l'opérateur Bilico sur l'authenticité de l'origine du message qui a dérouté le convoi du député assassiné. Selon le ministère public, il n'y avait pas eu échange des coups de feu en cet endroit cette nuit-là. C'est pourquoi, poursuit ce quotidien, le commandant Madibo de l'IPEKIN qui a donné à l'intention de tous les commissariats de police d'animer ce message sur une situation confuse à Saint-Luc, va recevoir une assignation à comparaître ce vendredi 8 août 2008. RDC, promulgation de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, a titré le palmarès du mercredi 6 août 2008. Le quotidien note que ce décret vient à point nommé quand on sait combien la société congolaise était marquée à une certaine période par des débats, notamment dans les deux chambres du Parlement, dont les membres avaient finalement su accorder leur violon. Le quotidien rappelle que la pomme de discorde était la direction ou non du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République, conclut le palmarès.
Merci Guy Maté, nous l'avons annoncé dans le sommaire, coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques ce vendredi 8 août à Pékin en Chine. Malgré le boycott de la cérémonie d'ouverture par certains chefs d'État et de gouvernement, nombreux ont participé à la cérémonie d'ouverture, c'est le cas de Joseph Kabila de la RDC, invité par le gouvernement chinois. Parmi les chefs d'État présents à ces Olympiades, le président Nicolas Sarkozy et l'Américain George Bush. La délégation congolaise est représentée par 5 athlètes dont Gary Kikaya et une vingtaine d'officiels. Plus de détails avec Christian Moulumba Kalumba.
La star congolaise lors de ces Jeux sera sans nul doute Gary Kikaya, le champion et recordman d'Afrique s'alignera sur 400 mètres en athlétisme. Ce garçon pourrait offrir à la RDC sa première médaille olympique, la seule inconnue jusque-là est son état physique. Gary Kikaya n'a pas été vu dans les grands meetings depuis le début de la saison. le porte-drapeau de la délégation congolaise à Pékin, a préparé ses jeux aux États-Unis. Quant à Magali Franca, une ex-fille de la délégation congolaise, elle fera le 100 mètres plat, la discipline mère des jeux. Après de 19 ans, la jeune Magali aimerait améliorer ses statistiques. Elle s'est préparée à Londres où elle réside. La boxe sera de la partie à Pékin avec un seul pugiliste, Henri Salikou Biembe. Ce Suisse d'adoption âgé de 26 ans défendra le drapeau national dans la catégorie de moyens. Salikou Biembe a obtenu son billet pour Pékin lors du tournoi qualificatif de Namibie. En judo, Eric Kibanza Lundoloki portera les couleurs de la RDC dans la catégorie de moins de 113 kilos. Après un séjour de près de 2 ans au centre de perfectionnement du Maroc et un stage en Italie, Kibanza rêve d'un parcours plus pélogieux à ses jeux. Le pays s'alignera aussi en natation. Une surprise pour un sport dont la pratique en RDC est presque nulle. Stanislas Kimpompo, inconnu dans le milieu du sport national, a obtenu son sésame pour Pékin sur invitation. Depuis sa première participation aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, la République démocratique du Congo court toujours derrière sa première médaille. Une fois de plus, le Congo-Kinshasa est au rendez-vous de cette grande fête universelle.
Notez que le chef de l'État, Joseph Kabila, a reçu la délégation congolaise dans la capitale chinoise, Pékin. John Ngoboa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste de la chaîne de télévision Antenne A. Quels commentaires pouvez-vous faire par rapport à la participation de la RDC à ces Olympiades?
Je crois que pour le pays, il faudrait qu'on dépasse la devise de Pierre de Coubertin, que seule la participation compte. Il faut que nous puissions penser à engranger des médailles. Ça fera 29 éditions et 0 médaille pour la RDC. Et je pense que Rwanda est un peu si gêné. Mais les médailles ne tombent pas comme ça, comme un fruit mûr. Mais les médailles, ça se prépare. Et en amont, la préparation du Congo est quasi nulle. Et vous allez d'ailleurs remarquer que on a plus d'officiels que des athlètes, que d'athlètes, ce qui est bizarre quand même. Mais par ailleurs, le Congo ne s'est qualifié à aucun tournoi qualificatif préparatoire des Jeux Olympiques. Et on avait attendu, comme toujours, les dernières minutes pour pouvoir préparer Vaikeval, les gens et de la RDC du pays. Il n'est pas parti grand monde. Tous ceux qui ont la majorité des participants, des athlètes qui vont compétir sous les couleurs du pays, viennent de l'extérieur. Donc du Congo, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Donc ça pose un problème, le même problème que nous connaissons ici, d'impréparation, des mauvaises préparations qu'on a toujours dénoncé, mais juste là, je crois que on n'a pas pris les bonnes décisions.
Merci John Ngoboa. Tade Boulandi, Yahweh, vous êtes journaliste indépendant également. Vous faites partie aussi de l'agence presse Sifia de Grand Lac, basée à Bukavu dans le sud Kivu. Une réaction par rapport à la participation de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques de Pékin.
Merci. Je salue d'abord les compères Mike et John, et je salue aussi les auditeurs. Première réaction, c'est que je suis content que le Congo soit présent à ces Jeux Olympiques, mais je suis insatisfait par 3 choses. La première chose, tous nos délégués, tous nos athlètes sont de l'extérieur, ils ne vivent pas au Congo. N'en déplaise au fait que ce sont des Congolais, mais il aurait fallu, comme nous avons vécu beaucoup de périodes de taquinerie, de tracasserie, d'encourager et d'accompagner plus ce qui évolue à l'intérieur du pays. Mais aussi, on parle de quelqu'un qui n'est pas connu dans le monde de l'athlétisme, mais il a été invité. Ça signifie que, c'est ça ma deuxième chose, c'est que c'est pas le Congo qui a décidé de ses athlètes, donc on m'a invité un Congolais parce qu'on les connaît. Et la troisième chose, c'est que effectivement 5 athlètes, c'est très peu pour le Congo. Le Congo qui a des relations, des partenariats actuellement avec la Chine, devrait être mieux représenté. Et comme l'équipe est petite, ça risque d'être comme nous sommes ces derniers temps. Nous avons donc envoyé nos athlètes sans les avoir préparés. Parce que si on avait préparé, on aurait pris au moins des Congolais de l'extérieur, des Congolais de l'Est, des Congolais de l'Ouest. Mais voilà, c'est presque une liste des Congolais vivant à l'extérieur.
Merci Tade Boulandi. Mike Mukebay, journaliste indépendant, vous œuvrez à Kinshasa. Vous avez suivi d'abord John qui a dit qu'il a en fait paraphrasé Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin qui fut le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Il dit l'essentiel c'est de participer et puis bon, il a déploré le fait de l'impréparation. Il y a un motif de satisfaction également de Tade Boulandi qui a relevé quand même la participation de certains athlètes qui on n'a pas pris compte des athlètes de l'intérieur, on a pris seulement les athlètes de l'extérieur. Une réaction, je vous repose la même question, votre impression, votre commentaire?
Non, je crois que la sélection, elle ne se fait pas de manière arbitraire. Hein. Si les athlètes ont été retenus, c'est qu'ils réalisent un certain temps. On veut dire qu'il faut atteindre une certaine performance pour être sélectionné pour participer à ces jeux. Mais si on doit revenir au problème du pays, à notre propre participation, je crois que le problème est connu et la solution, nous la recherchons, nous la répétons régulièrement. Il n'y a aucune politique de sport dans ce pays. C'est dommage. La dernière fois que nous avons organisé les Jeux nationaux, remonte à quand ? Comment voulez-vous aller participer aux Jeux Olympiques quand vous êtes incapable d'organiser des Jeux nationaux ? Quand à chaque province, on est incapable d'organiser une compétition d'athlétisme qui puisse permettre aux talents des corps enfin de participer à une compétition au niveau national et d'aller plus loin continental et ainsi de suite. Je crois qu'il nous faut arrêter. Je crois qu'à un moment donné, nous devons être sérieux avec nous. Si nous ne sommes pas à niveau, ne participons pas. Je crois qu'on peut tout arrêter. On dit, bon, pendant 10 ans, nous arrêtons, nous ne participons pas, nous essayons, nous, de faire avancer notre athlétisme sur le plan interne.
Mike Mukebay, dans l'Observateur paru ce vendredi, le président du comité olympique de la RDC a dit que la RDC peut faire des surprises. Est-ce que vous croyez à cette allégation?
Ça, c'est la congolite, là, la congomanie, hein, des couloirs aux surprises. Depuis que l'équipe nationale de football a joué un match de classement, je crois que c'était à la CAN ou à Gadjougou, on croit qu'on peut. Écoutez, c'est une proclamation, ça repose sur quoi? Les pauvres, Gary Sikaya, qui a été à un moment donné à un niveau très élevé de la compétition internationale, qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Mais rien. Alors, c'est un peu ça, nous sommes... Non, ce n'est pas que j'y crois ou j'y crois pas. On ne peut pas attendre des surprises quand au départ il n'y a pas eu de préparation. C'est une proclamation. Si vous lui reposez la question après la compétition, il vous dira, nous allons nous mettre à travailler.
Merci,
une année après, si vous lui demandez où vous en êtes, il dit, il manque de moyens, vous savez, voilà.
Mike Mukebay, nous demandons un peu de vous éloigner de l'endroit parce qu'il y a du bruit, hein, on entend du bruit quand vous parlez.
Je m'éloigne.
Ok, d'accord, merci. Je vous repasse la parole, John Ngobwa. Comment vous réagissez à cette affirmation du président du comité olympique de la RDC?
Moi, il me fait sourire, hein, parce que vous savez, dans le sport, il n'y a pas de hasard, hein, ça se prépare aujourd'hui. Curieusement, chez nous, on continue de jouer au sport avec la Bible et la calculette. C'est-à-dire, on fait des prières pour... On fait des prières pour pouvoir gagner alors qu'on s'est pas préparé.
Et puis finalement, John, ce pessimisme-là, il faudrait pas l'écarter un tout petit peu et être plus optimiste?
Non, Mike a relevé ici quelque chose d'important. La politique des sports, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit de se préparer. Les sports, ça se prépare. Et tel que ça se présente, on peut parier avec celui qui a parié qu'il y aura une surprise, que la surprise, ça sera plutôt son propos.
La surprise sera plutôt son propos. Là, ce sont les mots de John Ngobwa. Tade Boulandi, vous croyez aux athlètes congolais?
Nullement. On ne peut pas dire qu'il y a une surprise alors qu'ils ne se sont pas préparés. Justement, ce ne sont pas des jeux de hasard. Un athlète préparé, on voit, on sent qu'il s'est préparé, on connaît ses années d'endurance. J'aurais préféré plutôt qu'ils disent que bon, comme le Congo y va, on est en train de s'habituer progressivement, peut-être dans deux, trois autres sessions, on pourra se qualifier en bonne place, mais dire qu'il y aura des surprises, je n'en vois pas et il n'y en aura pas.
Merci John Ngobois. Donc c'est avec votre intervention que nous passons au deuxième thème de notre tribune de la presse. La loi sur le Conseil supérieur de la magistrature a été promulguée le mardi dernier par le président de la République. Au lendemain de cette promulgation, il y a eu plusieurs réactions, notamment celle du président du syndicat autonome des magistrats du Congo, Samba Mutinda, qui pense que la promulgation de cette loi est une bonne chose, mais son application en est une autre. Il espère qu'avec la promulgation de cette loi, les politiques vont laisser la justice travailler librement en toute indépendance. On écoute le magistrat Sambaï, qui était l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais le mercredi dernier. Il est au micro de Jean-Claude Toumba-Kamanga.
Même si le texte de loi est voté aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais il reste maintenant les grands défis à relever, c'est l'appropriation de l'indépendance par les magistrats eux-mêmes, ce qui implique la personnalité du magistrat, ce qui implique son savoir, ce qui implique sa condition de travail, et ainsi de suite. Aussi, même si la loi est votée, il y a aussi un autre défi à relever, c'est celui, en fait, du politique qui, en fait, doit procéder à l'application de cette loi. Vous savez quelle autorité politique nous avons. Voter la loi est une chose, mais l'appliquer est une autre. C'est là un grand défi, à mon sens, qui reste aussi à relever. Il y a aussi autre chose, c'est du côté du magistrat, je reviens encore une fois de plus, c'est les travers qu'on a souvent reprochés au magistrat. Est-ce que le magistrat va comprendre cette fois-ci qu'il est au service de la population et que la population doit trouver son compte dans l'exercice de sa profession? Voilà autant de défis qui nous attendent après le vote de cette loi-là.
Réjouissance également du côté d'un autre syndicat des magistrats, Justice Indépendante. Son président René Sibou pense que cela permettra aux magistrats de se sentir sécurisés dans leur carrière. Matadi Wamba, ancien bâtonnier et avocat près la Cour suprême de justice, salue et également la promulgation de cette loi. Il tient à ce que le Parlement puisse avoir aussi un contrôle sur le pouvoir judiciaire. On l'écoute au micro de Jean-Claude Toumba-Kamanga, lui également était l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais.
Chaque pouvoir a ses attributions. Et c'est dans les attributions du pouvoir législatif de contrôler tous les actes que l'on pose dans le pays, les actes du gouvernement. Pourquoi voulez-vous que le Parlement ne contrôle que le gouvernement et pas l'autre branche du pouvoir que la justice? Est-ce qu'on peut imaginer que les magistrats qui s'autogèrent, lorsqu'il y a des erreurs graves, lorsqu'il y a des fautes graves qui se commettent, eh bien, ils sont les seuls à traiter ça? Non, il faut qu'un autre pouvoir, c'est-à-dire le législatif, contrôle comme il contrôle le gouvernement. Parce que la Constitution ne soustrait pas le pouvoir judiciaire du contrôle du Parlement. Il y a un silence. Et ce silence-là est dû justement à la discordance dans les textes. Le gouvernement, le ministre de la Justice, soit dans le Conseil supérieur de la magistrature, pour que si on doit demander des comptes à ce pouvoir, et que ce ne soit pas le magistrat qui aille là-bas, mais que ce soit plutôt le gouvernement par le biais du ministre de la Justice.
Mike Moukebaye, au lendemain de la publication de cette loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que on peut dire que la population peut espérer avoir une justice indépendante?
Oui et non. Oui, c'est un pas. Nous avons évolué. Il y a une loi qui a longtemps manqué à l'architecture judiciaire du pays. Elle est très fondamentale. Je disais non en même temps parce que, vous savez, tout ça participe à l'ensemble, à un système. Tant que le système politique dans son ensemble n'est pas préparé à accepter l'indépendance de la magistrature, il est difficile de dire que nous l'avons obtenu avec cette loi.
Mike, s'il te plaît, Mike.
Il y a un problème. Oui, je dois ajouter.
Oui, j'aimerais que tu expliques un peu.
Oui, mais c'est ça, je vais t'expliquer. Mais tant que les systèmes fonctionnent sur base de trafic d'influence, sur base de corruption, ce système n'acceptera jamais de voir les magistrats indépendants. Parce que si les magistrats deviennent indépendants, c'est de ceux qui animent ces systèmes deviennent faibles au profit de l'État qui s'en sort. Or, consciemment ou inconsciemment, ces gens ont décidé d'affaiblir l'État pour qu'eux prennent le dessus. C'est ça tout le problème. Il s'agit d'un état d'esprit. Et il faut qu'il y ait un centre d'impulsion politique qui croie réellement la démocratie, qui croie réellement l'indépendance de la magistrature, et qui donne l'impulsion. Et qui soit à même, lui, sur le plan politique, de faire comprendre aux autres dirigeants qu'il n'acceptera pas, qu'il ne laissera pas passer des trafics d'influence, qu'il commence lui-même par s'abstenir et amener les siens propres, membres des familles, amis, camarades, à ne pas recourir au trafic d'influence. Or, on est en plein dedans dans ce système de trafic d'influence.
Merci. John Gobois, vous avez suivi Mike Mukebai par rapport à la promulgation de cette loi. Il salue la promulgation auprès de cette loi-là, mais certaines inquiétudes, notamment sur ce qu'il a appelé un système, c'est-à-dire que le trafic d'influence, il y a la corruption qui gangrène les institutions, et il craint que cela ne puisse pas avoir un effet attendu, une réaction.
Oui, j'ai dit que cette loi et la consultation en fait, du Conseil supérieur de la magistrature est un enjeu et un danger. En même temps, un enjeu dans la mesure où finalement les magistrats vont devoir faire la loi, faire dire la loi en toute liberté, ce qu'ils avaient revendiqué de tout le temps. Les gouvernements et les parlements ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir compléter l'architecture au niveau des institutions judiciaires, exécutives et législatives. Mais maintenant, il s'agit de pouvoir tirer la meilleure leçon, tirer l'essence, la quintessence de cette loi, c'est-à-dire que, d'une part, les magistrats qui vont devoir dire la loi les fassent de façon transparente, parce que ces pays souffrent aussi d'un grave déni de justice. La plupart du temps, les gens se plaignent des magistrats et de leur comportement. D'autre part, il faudrait se rassurer que le pouvoir politique ne va pas interférer dans le Conseil supérieur de la magistrature pour pouvoir laisser les magistrats œuvrer totalement comme le prévoit la loi.
Vous avez suivi Mike Mukebai qui a parlé, qui a émis des craintes par rapport à cette loi. Il a salué le travail fait par le gouvernement. John Gobois, lui, il a parlé des enjeux et de dangers. Comment vous accueillez cette promulgation, cette loi sur le Conseil supérieur de la magistrature?
Merci beaucoup. J'ai salué la venue de cette loi sur le Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est un outil de gestion qui manquait. Mais également, j'épouse les craintes et les préoccupations de Mike et de John. Mais comme d'un côté, il y a le danger de trafic d'influence et de corruption, je voudrais plutôt garder la parole en faisant des propositions. Et ma première proposition, c'est celle-ci, c'est qu'il ne faut pas que le travail des magistrats soit le travail des seuls magistrats, parce qu'ils disent la loi au nom des Congolais, parce que c'est ça leur fonction. Première proposition, qu'on puisse créer des observateurs de procès pour que, après chaque procès, ceux qui ont observé puissent publier leurs observations à l'intention de la Cour. Nous avons vu ce cas-là ici à Bukavu et ça a permis d'améliorer un peu les procédures et les comportements. Parce que...
Les observateurs de procès, selon votre proposition, qui?
Ça peut être des acteurs des associations des droits de l'homme ou des citoyens qui sont intéressés par les processus démocratiques dans lesquels nous sommes, qui peuvent observer et écrire. On a eu des cas au Sud Kivu, comme je disais, à Bukavu, et ce n'était pas mauvais du tout. Au contraire, ça a permis d'améliorer les procès qui ont eu à avoir lieu ces derniers temps.
Merci. Mike Mukebai, si on vous posait la question, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la justice congolaise retrouve son indépendance?
Écoutez, je vais peut-être m'en répéter, c'est des choses que tout le monde connaît, tout le monde les dit. Il y a d'abord les conditions des magistrats, tant qu'ils seront sous-payés tels qu'ils le font aujourd'hui, ils resteront à la merci de la poche, la plus consistante, c'est ça le problème, oui.
Okay. Mike, oui. Excuse-moi pour en fait enseigner avec ce que tu es en train de dire. Pourquoi ne pas croire à cette loi-là qui est promulguée? Et dans cette loi, il est dit dans un article que ce conseil élabore le budget et gère pratiquement le budget de la magistrature, de la justice.
Vous avez les textes sont une chose, mais la pratique en est une autre. Hein. Si vous arrivez dans un pays comme le Rwanda, vous y trouverez un parlement et un gouvernement. Si vous en tenez à cela, vous dites qu'il y a démocratie. Mais si vous y entrez, vous essayez de voir le fonctionnement de ces institutions, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est une démocratie de façade. Donc, il y a un texte qui est promulgué, mais une autre chose est la pratique. Comment nous allons vivre ces textes au quotidien? Là, il s'agit des hommes et de tous les systèmes dans lesquels s'insèrent ces textes. Et c'est cela la préoccupation que j'ai évoquée tout à l'heure. Les hommes et les systèmes dans lesquels s'insèrent. Mais écoutez, ce texte n'est pas le premier beau texte que nous avons. Nous avons tant d'autres beaux textes dans tel ou tel domaine. Et écoutez, mais c'est pas pour autant que les choses marchent. Parce que le système en soi lui-même ne permet pas qu'il y ait un texte bon dans tel ou tel autre secteur et que ça puisse marcher. Donc ce problème est fondamental de s'attaquer à la structure de l'ensemble, de s'attaquer au pouvoir politique, que le pouvoir politique donne réellement l'impulsion, qu'il se définisse une vision et qu'il montre réellement la volonté d'un changement dans le pays. Et là, on peut dire, tiens, on y va. Mais là, ça va être un texte, ce sera un texte.
John Ngombwa, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? D'abord, comment vous analysez le système et pour l'améliorer finalement, comment faire?
Le système conçu comme étant le système politique global du Congo est un système, comment je peux dire, progressif. Nous devenons d'un point, on se rend vers un autre, je pense vers la pratique démocratique totale. Pour l'instant, nous sommes entre deux eaux. Et il y a effectivement un peu de là où nous venons, un peu de là où nous allons. Mais pour l'instant, il faudrait, à mon avis, que qu'on donne des signes, il faudra donner des signes forts. Et la promulgation...
Il n'y a pas de choses positives dans ce système.
Voilà, c'est la promulgation de cette loi, du fait même que le président de la République ait décidé de pouvoir de ne pas rentrer dans la polémique, qui voulait que ce soit lui qui puisse superviser les conseils supérieurs de la magistrature. Ça c'est déjà un point positif, parce qu'il aurait aussi pu les régenter même dans la loi. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les magistrats ont la magistrature, si je peux ainsi m'exprimer. Et donc, on peut croire que là, il y a un signal positif qui mérite quand même d'être consolidé avec d'autres signaux. Il faudrait que les systèmes politiques, parce que c'est celui qu'on craint le plus, arrêtent d'interférer dans la magistrature, dans la nomination, parce que maintenant, avec la loi, les magistrats vont se nommer entre eux, et puis ils vont aussi se payer, parce que la question de la rémunération...
Le budget, oui.
Oui, c'était très, très importante. Donc, on pense que là, il y a...
Est-ce que ça peut mettre fin à la corruption?
Écoutez, la corruption, vous savez que ça, c'est un état d'âme hein, qui n'a pas forcément rien à voir avec ce qu'on gagne, parce que vous rencontrez des gens qui gagnent beaucoup de millions, mais qui sont toujours corrompus. Donc ça, il faut relativiser. Mais ceci dit, il y a une bonne base sur laquelle il revient maintenant aux magistrats de broder pour que nous puissions consolider dans ce pays une justice digne de ce nom.
Tade Balundi, un dernier mot pour que nous puissions passer au troisième thème de notre tribune de la presse par rapport à l'amélioration du système, par rapport également à aider la population à avoir une justice équitable pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire, outre ce que vous avez dit, notamment la mise en place des observateurs de procès?
Il faut également, comme disait mes collègues Obi, loger les magistrats, les véhiculer, les payer pour qu'ils ne soient pas à la merci des clients, et leur laisser la main libre, parce qu'il ne faut pas que ça reste un texte très, très beau, un vœu pieux qui ne passe pas en action. Je rentre un peu sur le fait que John vient de parler de corruption qui est relative. Pour moi, la corruption n'est pas relative. Ou on veut être corrompu ou on ne le veut pas. En fait, on n'est pas corrompu parce qu'on est pauvre. Il y a des pauvres qui acceptent leur situation et des riches qui veulent avoir plus. le mot que je voulais placer, le mot le plus important, c'est de vraiment laisser la main libre aux magistrats pour qu'ils puissent faire leur travail dans la liberté. Alors on peut les contrôler en vérifiant ce qu'ils ont fait de texte. Dire qu'ils vont se payer, c'est une bonne chose. Nous avons connu des cas où on a des beaux textes comme la Constitution, les 40% à rétrocéder. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais en tout cas, ça n'a pas été fait la première année. Ça risque d'être le cas ici, où ils peuvent élaborer leur budget, mais ils ne seront pas approvisionnés en fonds pour pouvoir être libres de leurs dépenses et de leurs justificatifs, parce qu'en fait, ils devront rendre compte des moyens qu'on met à leur disposition.
Ce que vous venez de dire relance pratiquement le débat. John, comment rendre plus libre le magistrat?
C'est une question de politique et une question de loi. Une question de politique dans la mesure où on devrait arrêter avec les interférences, on devrait arrêter avec les nominations fantaisistes, on devrait arrêter avec les pratiques d'influence. Une question de loi, aujourd'hui, les cadres triés. Les magistrats, c'est un être humain qui a besoin d'un minimum pour pouvoir vivre. Parce que, vous savez, rendre la justice n'est pas toujours une chose aisée, surtout lorsque vous-même, vous êtes juge et parti. Et donc, le magistrat doit être aujourd'hui seulement juge et pas parti. Donc, on doit lui trouver le moyen de sa politique, comme venait de le dire Tadé, avoir une rémunération conséquente, un standing qui lui permette d'être à l'abri des besoins et de pouvoir exécuter la justice convenablement. Je pense que le Congo va y gagner parce que notre pays souffre du fait que la plupart des gens considèrent que c'est une jungle, ou même quand vous avez raison, vous n'êtes pas toujours sûr d'avoir raison. La plupart des gens ne vont jamais en justice. On dit, au lieu de faire un arrangement, autant faire un arrangement à l'amiable. Un cas concret des gens qui n'ont pas voulu aller en justice, mais nous le vivons ici tous les jours. Je peux dire que sur 1000 sur un procès qui va en justice, il y a au moins 999 qui ne sont pas allés, parce que on pense à ne pas y aller, peut-être que la justice coûte cher, peut-être que vous n'êtes pas sûr d'avoir toujours raison, ainsi de suite. Bien évidemment, il y a ici et là des cas où, on parvient quand même à arriver à la fin d'un procès, parce que ça c'est aussi la particularité du chelou ici, les procès, surtout les grands procès, on les mène rarement à terme.
Merci John. Maïs Moukébaï, je reviens encore vers vous. Comment rendre le magistrat plus libre? Vous avez suivi, John.
Non, je crois qu'il ne faudra pas sectariser ces problèmes, se poser la question comment le rendre plus libre. Je crois que tous les secteurs d'activité de la vie nationale sont concernés par ce problème. Il s'agit, à mon point de vue, d'une approche globale. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une petite digression, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la corruption, comment faire, pourquoi, comment la combattre. Mais j'ai dit, si la corruption règne à mettre à la République démocratique du Congo, je suis désolé, c'est mon point de vue, mais vous savez, c'est à cause de quoi? À cause de la presse. Nous sommes complices.
Mais Mike, sans pour autant vous interrompre.
Si nous pouvons, nous, jouer ce rôle d'accompagner réellement la promotion de la bonne gouvernance, je crois qu'on va faire avancer grandement les choses. Je crois que nous parlons souvent d'eux autres. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Regardez, le premier ministre Gizenga a fait état d'un détournement de 1,3 milliard. Et au lieu que la presse enquête, essaye de comprendre, donner l'information, elle se lance dans la défense de tel ou tel autre individu. Est-ce que le problème, c'est de savoir si la procédure a été viciée ou que plutôt la commission Omalete a mis des éléments à la discussion de la justice? C'est à la justice d'apprécier et d'ouvrir l'instruction judiciaire contre les concernés.
Merci, Mike. Nous n'allons pas faire.
Oui, tu disais que nous n'allons pas faire un procès. Il faut le faire. Je t'en prie. Il faudra. Peut-être que c'est pas le moment aujourd'hui, mais il faudra qu'on le fasse un jour.
Ouais. Vous voulez dire que les journalistes, les médias ont leur rôle par rapport à la justice?
C'est ça que j'ai dit. C'est pourquoi je disais qu'il s'agit de s'attaquer.
Merci.
À la presse, à la magistrature, de nous aider, nous tous, à devenir libres.
Merci.
Nous ne sommes pas des citoyens libres.
Merci, Mike. Mike Montebaille. Nous passons donc au troisième thème de notre tribune de la presse. Procès Botetti, l'heure est à la deuxième descente sur les lieux de l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le tribunal militaire de garnison Galima en a décidé ainsi à l'issue de l'audience hier jeudi, audience à laquelle a comparu la police scientifique, celle-là même qui est chargée de l'investigation sur les lieux du crime. Le conseil de la défense a relevé de failles dans la représentation géographique du lieu du meurtre présenté devant les tribunaux par la police scientifique, ce qui n'a pas permis au conseil de la défense et à la partie civile de poser des questions claires sur la restitution des faits de ce meurtre. La descente sur terrain, comme je venais de le dire, c'est ce vendredi. Et Mike Moukebaye, vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Aujourd'hui, il y a eu l'audience sur place ici, une audience foraine, donc les tribunaux qui les passaient du camp Kokolo. La première fois, les tribunaux s'étaient contentés de procéder à la reconstitution des faits, mais aujourd'hui, non seulement ils ont commencé avec les explications de la police scientifique sur la scène, comment elle s'est déroulée, mais le tribunal lui-même siège sur place. Là, tout à l'heure, monsieur Kankondi, le garde du corps de Daniel Botetti, avait reconstitué son parcours, comment il a quitté la voiture jusqu'à la grande voie où finalement il a été récupéré par la police et la défense lui pose des questions et il y a aussi la partie civile, Botetti, qui lui pose des questions parce qu'il y a certains détails dans sa déposition qui ne sont pas clairs.
Comment vous réagissez, hein? Quelques lectures faites-vous depuis le début de ce procès jusqu'à ce jour? Bon, je veux vous redonner la parole, mais je prends d'abord Tadé Balundi, Yahweh. Vous êtes journaliste indépendant à partir de Bukavu. Sûrement que vous avez suivi ce procès. Quels commentaires pouvez-vous faire quant à la poursuite des audiences?
Bon, le premier commentaire, c'est le constat du fait qu'on a ménagé aucun détail pour essayer de mener le procès. La première chose, le fait qu'on a interpellé le gouverneur, c'était très bien parce qu'il avait été cité. Ça a permis aux gens de comprendre que, bon, même quand on est trop fort devant la loi, on s'explique et on n'a pas donné ce moyen de défense. La deuxième chose, c'est le fait que le tribunal tient vraiment à comprendre. Le fait de se rendre sur les lieux plusieurs fois, ce sont des indicateurs qui montrent que, mais franchement, on ne veut pas y aller très vite. On veut accumuler assez d'arguments avant de trancher. Et ici, à l'Est, les gens sont satisfaits de voir qu'on est en train vraiment de mettre élément sur élément pour comprendre ce qui s'est passé. Bien que ce genre de procès, là où il y a eu mort d'homme, ça prend toujours du temps. Mais bon, apparemment, le procès évolue dans de bonnes conditions. On espère que la justice va bien faire son travail.
Merci Tadé. John Ngobois, je rappelle que vous êtes journaliste de la chaîne de télévision Antenne A qui est née à Kinshasa. Nous tenons également à rappeler que par rapport toujours à ce procès, il y a eu pardon mutuel entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et le prévenu Patrick Mouwa au cours des audiences précédentes. Alors, est-ce que le procès, vous n'avez pas l'impression que ce procès est en train de s'enliser?
Oui, je voulais revenir d'abord sur le pardon. Vous savez, quand il s'agit des faits pénaux, même si les parties décident de se rétracter, le magistrat a la liberté de mener l'action, parce qu'il y a eu mort d'homme, et donc, bon, ce pardon-là, par rapport aux faits, on peut considérer que c'est un fait périphérique. Alors, les procès sont listés. Je pense que la procédure suit son cours. Alors, ce procès, il est un rebondissement comme le grand procès à travers le monde, qui en général ne se termine pas au moment où on le pense. Je crois qu'il faudra qu'on prenne les temps qu'il faut, parce que ce procès est aussi pédagogique par rapport à la population et permettra à ce que la population puisse avoir quoi en la justice du pays. Et donc, le temps qu'il pourra prendre les temps nécessaires, sans pour autant que cela puisse lasser. Mais évidemment, il faut les mener à terme aussi.
Merci, Jean Gomboa. Mike Moukeba, je reviens donc vers vous. Est-ce que vous avez également cette... Je vous repose pratiquement la même question que je posais à John. Est-ce que vous avez l'impression que ce procès s'enlise et croyez-vous vraiment qu'un jour on connaîtra la vérité par rapport à ce qu'il y a eu?
La deuxième question est difficile, hein. Que je préjuge de l'issue si on connaîtra la vérité ou pas. Mais le procès s'enlise, je dis non, plutôt. Le procès avance et il est maintenant dans une étape très décisive. Une étape très décisive, hein.
Qu'est-ce que vous entendez par étape décisive?
Oui, mais il y a un nouvel élément très important. Kim Bouta, qui est appelé devant le tribunal comme renseignant, dit que ça n'a jamais tiré à Saint-Luc, qu'il n'a jamais reçu un rapport dans ce sens, que le conseil de sécurité de la ville n'a jamais reçu un rapport dans ce sens, et en même temps, l'opérateur qui comparait, qui dit, j'ai donné ce message, moi je l'ai reçu de Li Peking. Et Li Peking, le responsable qui a donné ce message, est attendu, il devra s'expliquer. C'est ce message qui a détourné le défunt de sa voix. Il prenait la Ngouma. Lui, c'était ce message radio qui continuait la voix. Alors, c'est un élément déterminant. Les procès ne s'enlisent pas. Donc, je me dis même, c'est plus ou moins un film ou un des films conducteurs vers la vérité. Mais il y a des inquiétudes.
Quelles sont ces inquiétudes? C'est par rapport à des zones d'ombre?
Sur la liberté du tribunal, sur la liberté, l'indépendance du ministère public. Personne ne s'est expliqué, en tout cas des hommes français, que le ministère public parle des hommes, de gens condamnés à Makala, qu'il fait venir pour démontrer que c'est elle qui avait mis dans la bouche des Patrimoine, des cités, des gouverneurs. Mais il fait venir tout le monde, sauf le principal suspect, les fameux Kassongo. Phénomène. Il ne suffit pas d'avoir fait. Il ne faut pas avoir fait le droit pour se poser des questions sur un tel comportement de la part du ministère public. C'est inquiétant. Il veut reconstituer ce fait. Il veut comprendre cette légion des condamnés, des détenus à la prison de Makala, se sont dit. Il appelle tout le monde, sauf le principal suspect. Ça prête à conscience.
Le principal suspect, vous voulez parler d'un certain Kassongo?
Mais si, mais je l'ai expliqué. Mais dans cette affaire que le ministère public a présentée devant le tribunal,
merci.
Le principal concerné, la pièce maîtresse, c'est qui? Mais c'est Kassongo Phénomène, parce que c'est lui qui aurait donné la bouillie, c'est lui qui aurait dit, mais on fait venir tout le monde, sauf lui. Je suis désolé, à partir de ce moment, en tout cas, j'ai beaucoup discuté ici avec des gens, notamment la partie civile. La partie civile a commencé à remettre un peu en cause l'indépendance du ministère public, à se demander s'il a l'indépendance, s'il peut aller jusqu'au bout de ses procès, à se poser aussi des questions sur l'indépendance du tribunal dans ce procès.
John Gomboa, juste placer un dernier mot, nous sommes pratiquement à la fin, 40 secondes par rapport à ce procès, une petite conclusion.
Le magistrat de la RDC a l'occasion de pouvoir démontrer que le Conseil supérieur de la magistrature valait la peine d'être créé parce qu'ils seront plus libres et pourront dire la loi correctement.
Tade Balungi Yahweh, un dernier mot sur la suite de ce procès?
Bon, il faut que ce procès prenne tout le temps nécessaire avant de trancher parce que au sujet de la mort d'homme, on n'y va pas à la légère. Mais aussi, ils ont une occasion en or de bien faire leur travail parce que maintenant il y a un texte qui définit leurs activités, leurs attributions. Ils pourront comme cela montrer à la face des Congolais et du monde qu'ils ont des capacités de travailler et qu'ils peuvent le faire, mais qu'on leur laisse les mains libres.
Merci Tade. Mike Moukebaï, un dernier mot?
Encore et toujours la presse. Un procès se déroule, un vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été assassiné. La presse ne s'est contente que de compte rendu d'audience. Aucun effort d'enquête. C'est terrible, c'est pas possible. La presse peut montrer la voie.
mais elle ne fait aucun effort. Elle vient, elle assiste aux agents, elle va rendre compte. Elle n'essaie même pas de recouper, même pas d'opposer ceci à cela.
Tu es journaliste, Mike Mukebai, toi-même, tu es journaliste.
Mais je suis sévère envers nous, parce que nous ne sommes pas à la hauteur.
Nous espérons que nous serons à la hauteur. C'est avec vous que nous arrivons à la fin de cette tribune de la presse. Réalisation Jean-Claude Toumba Kamanga, Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde, Guy Maté, Titi Poutou, Claude Pienza, en leur nom, Guy Rosénien Pala vous dit merci, à la prochaine. Thank you.